Qui fait du latin ici?
Non, moi je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place.
Grèce ancienne, temps moderne.
Le grec, c'est ancien. Donc s'il y a deux fois plus de gens qui en font, ben, pour eux, ça ne sera plus une langue morte. Ça sera deux fois plus vivante que l'espagnol ou l'anglais.
Veux-tu m'abriter en Athènes?
Oui, je prendrai soin de toi.
Les liens que nous avions avec le continent Antiquité se dénouant au fil des générations, nous le laissons s'enfoncer peu à peu, telle l'Atlantide. Son destin est-il de reposer sur ce vieux fond marin que nous appelons curieusement les humanités classiques? Mais la Grèce est ce que nous en faisons. Nous l'avons constituée comme un garde-manger où nous puisions de très beaux exemples. Ces fameuses humanités classiques, à bien des égards, c'était une grande leçon de morale. Il nous reste de ce superbe tableau que nous peignions de l'Antiquité l'image du miracle démocratique d'Athènes. Récemment encore, toute une famille de penseurs d'après la Seconde Guerre oppose la cité grecque au totalitarisme. Hitler, Staline, ça finit par s'écrouler. La cité de Périclès, si loin qu'elle soit, ça résonne encore, ça fait système. Avec les Grecs, nous continuons de parler démocratie, mais nous parlons aussi de plus en plus anthropologie. C'est drôle, disait l'helléniste Jean-Pierre Vernant. Mes collègues indianistes me font comprendre les choses grecques parce qu'ils disent des choses indiennes. Bon, c'est incontestable, à l'heure de l'anglais, langue de communication mondiale, le grec en tant que discipline pèse de moins en moins lourd. 2% des collégiens l'abordent en option, 18% pour le latin. Mais ce qui importe davantage, c'est la Grèce. Elle excède le cadre d'une seule discipline. Paul Valéry n'a-t-il pas dit que c'était la plus belle invention des temps modernes?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec François Hartog, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier « Partir pour la Grèce », invitation à beaucoup de voyages originaux. C'est aux éditions Flammarion. On ne va pas tenter d'expliquer comment, d'une option, on va passer à un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, je vérifie que vous comprenez bien, à quoi in extremis on pourrait ajouter des heures de complément. Ça va être vraiment beaucoup trop compliqué. On va essayer de prendre des choses plus simplement, si vous voulez bien, ou de plus loin, ou de plus haut. Ce qui vous intéresse, vous, c'est ce que font nos modernes de leur Grèce.
En effet, cette formule que vous venez de rappeler...
Que je vous emprunte. Hein.
Rassemble, me semble-t-il, fort bien la question. C'est-à-dire, et c'est un peu justement l'objet de ce livre, partir pour la Grèce, c'est de saisir quelques-unes des façons qui ont été utilisées, qui ont été produites, qui ont été inventées au cours des siècles, quelques-unes des façons de partir pour la Grèce, c'est-à-dire de se choisir ce vis-à-vis grec pour lui poser des questions et pour, en retour, que ce vis-à-vis nous pose des questions à nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce mouvement d'aller-retour permanent, et c'est cela qui fait la fécondité d'un rapport à la Grèce, et c'est probablement cela qui est en question aujourd'hui, sans revenir à la question des EPI.
Oh, on va y... parvenir peut-être à la fin de l'émission, mais gardons l'agréable suspension. Agréable suspension, c'est un mot qui date de l'époque des humanités classiques. Alors, Fumaroli nous dit depuis le XVIe siècle, Fumaroli, professeur au Collège de France, émérite, l'enseignement secondaire est fondé sur le latin et le grec, et dans la rue, on entend encore des gens défendre les humanités classiques. Mais alors, il faut décomposer, parce que humanité... 16e siècle, humaniste, classique, fin 17e, 18e, c'est pas tout à fait la même chose. Expliquez-nous.
Oui, vous avez raison. Humanité classique, c'est déjà une construction, un mot, voilà, une appellation composée. Humanité, c'est en effet ce rapport que les humanistes ont décidé d'avoir avec cette antiquité grecque et encore plus romaine.
Bon. C'est-à-dire qu'ils décident d'ouvrir un chantier, le chantier de l'Antiquité, pour hisser l'époque, la Renaissance, au niveau de cette Antiquité?
Oui, pour hisser cette Renaissance, mais justement, mais c'est la faire exister. La hisser, c'est la faire exister, et c'est d'avoir fait ce choix. Ils n'étaient pas obligés. il n'était même pas évident que c'était ce choix-là qui allait être fait, puisque ce choix implique aussi une rupture. Impliquer une rupture avec ce qu'ils ont baptisé, justement, pour s'en détacher et le repousser à loin d'eux, le Moyen-Âge. C'est-à-dire le temps de l'Église, le temps des monarchies dominées par le pape. Bon, c'est tout ça qu'on a mis de côté. En disant, cette antiquité-là, nous voulons la retrouver. Nous prétendons la retrouver, avec toute la part d'illusion qu'il y a dans ce type de démarche, mais aussi toute la force d'invention qu'il y a dans ce type de démarche.
Et ils avaient tendance, du coup, à enterrer ce que certains de nos conservateurs d'aujourd'hui veulent absolument défendre dans l'enseignement de l'histoire, qui s'appelle la chrétienté. Mais passons. Voilà, oui. Humaniste, humanité, renaissance. Et le mot classique, alors ? Vous dites que ça apparaît fin 17e et ça s'étend au 18e.
Classique, ça apparaît au 17e. Mais on commence à dessiner, justement, on définit ce que c'est qu'un auteur classique. Un auteur classique, c'est d'abord un auteur qui est fait pour les classes, dans les collèges. Un auteur pour les classes. Et les bons auteurs classiques sont les auteurs de la bonne romanité, avant tout. C'est-à-dire qu'ils parlaient un bon latin, qu'ils écrivaient un bon latin. Et on y ajoute les auteurs, quelques-uns des auteurs modernes. Donc la catégorie classique englobe à la fois les romains et des modernes. Et alors là, on a d'un côté humanité et de l'autre classique. Et pour arriver à humanité classique, alors il faut encore s'avancer un peu plus loin.
Attendez, on va s'arrêter au 18e, si vous le voulez bien. Un bon auteur moderne, c'est celui qui fait écho à un auteur classique, qui est dans la filiation d'un auteur classique. Pour parler un peu des Grecs quand même, pour ne pas les abandonner complètement, La Fontaine fait écho à Ésope, l'Iphigénie de Racine fait écho aux Iphigénies de Ripide.
Exactement, exactement.
Et alors tout ça, ça fait un vaste garde-manger de références, d'exemples que les hommes de 1789 qui croyaient ne s'être préparés qu'à la gloire littéraire et qui avaient donc lu beaucoup de classiques vont utiliser quand ils vont accéder aux responsabilités politiques. Nous sommes dans un petit village de l'Aisne où surgit un candidat dont le nom va grandir dans l'histoire de la Révolution française.
Mes chers concitoyens, j'ai convoqué les électeurs de Blérancourt en considération du décret pris par l'Assemblée nationale. Je me permets de recommander à vos suffrages le meilleur d'entre nous, le commandant de notre garde nationale, Saint-Just, un Brutus qui saura lever son poignard contre le retour de la tyrannie.
Demande la parole.
Silence, citoyen, silence.
Monsieur de Saint-Just.
Citoyen !
La révolution est un coup de foudre et je le regarde de loin. Imaginez un Athénien absent de sa patrie au moment de Salamine. J'en suis là.
Citoyen ! Chers compatriotes de Blérancourt, les nouvelles de la frontière nous imposent des tâches urgentes et sacrées. La trahison a rejeté vers l'île notre cavalerie. Les officiers aristocrates désertent. Les mercenaires passent à l'ennemi. Il faut organiser une armée nouvelle. Et je fais appel aux volontaires pour qu'ils rejoignent les camps. Ils sauront combattre comme les guerriers de Sparte aux Thermopyles.
Thermopyles, Salamine, Léonidas qui se sacrifie pour retarder l'ennemi et permettre la victoire finale. Puis il y a tout le répertoire romain qui va avec, Caton qui préfère se suicider plutôt que de voir un souverain sur un trône.
Et puis Brutus, bien sûr.
Et Brutus, Saint-Just était présenté comme Brutus. Vous dites que, avec la fin de la Révolution française, cette utilisation politique du monde classique va s'achever. Chateaubriand reproche aux Jacobins de ne pas avoir vécu en France, mais d'avoir vécu à Sparte et à Athènes.
Oui. Alors, l'extrait que vous venez de passer illustre parfaitement cela.
Film de Pierre Cardinal, j'ai oublié de dire, pardonnez-moi.
Ces références à l'Antiquité romaine, grecque, Sparte, Athènes, enfin Sparte surtout. Et on retrouve, si vous voulez, dans cette mobilisation politique des anciens, quelque chose du geste des humanistes. c'est se tourner vers cette antiquité pour faire quelque chose d'inédit. De même que les humanistes voulaient faire quelque chose d'inédit. Bon. Mais, la Révolution ayant eu le cours que l'on sait, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui avait entraîné ce dérapage de la Révolution, bref, la Terreur. Et une des réponses qui a été apportée très tôt, tout de suite après Thermidor, ça a été de dire, justement, ils ont confondu les temps. Ils ont cru qu'on pouvait recréer Sparte, qu'on pouvait refaire revivre Sparte. Ils étaient plus citoyens de Sparte que habitants des bords de la Seine. Et cette mise en cause, donc, ils se sont trompés d'époque. Et la mise en forme politique alors de cette proposition, c'est Benjamin Constant, avec ses deux libertés. La liberté des anciens, qui est une liberté toute de participation, et la liberté des modernes, qui est une réservée à la jouissance privée et qui implique un système avec la représentation.
La Grèce et Rome vont continuer à jouer un grand rôle. La Grèce dépolitisée est une Grèce présentée comme une cité traversée de part en part par la religion plus que par le débat politique. Quand vous étiez jeune professeur à Strasbourg, vous croisiez l'ombre d'un illustre prédécesseur, Fustel de Coulanges, qui en 1864 avait rédigé, imprimé à Strasbourg, la cité antique. C'est une cité religieuse pour lui.
Oui, alors, en un sens, Fustel de Coulanges clôt cette séquence qui est ouverte avec la Révolution, en poussant au plus loin la dépolitisation du rapport aux anciens. Et en disant, vous avez cru que Sparte, c'était une cité politique, vous avez cru qu'Athènes, c'était... Non, le fondement de la cité, il est religieux. Et c'est une religion qui est le culte des ancêtres, pour aller vite. Cette religion, elle n'a plus cours depuis très très longtemps, puisque le christianisme est devenu y mettre un terme définitif. Donc, on rejette encore plus loin cette formation singulière qu'a été la cité et on la fait reposer sur la religion et la famille.
L'objet Grèce tel que le constituent les modernes. C'est toujours intéressant de voir les choses de manière transnationale. Je vous propose un petit excursus maintenant de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du Rhin. Peu après la cité antique, la France est battue par l'Allemagne et il y a un phénomène qu'on appelle la crise allemande de la pensée française. On ne cesse d'aller chercher des explications de la défaite française dans l'exemple allemand. Mais avant, il y avait eu, 1806, la défaite de la Prusse face à la France et il y a eu une crise française et grecque de la pensée allemande.
Tout à fait.
Quelle heure est-il ?
Près de midi, sire.
Encore de petites heures. Et Iéna, qui n'était que le nom d'une petite ville, sera le nom d'une immense victoire.
Alors là, les auditeurs se demandent bien pourquoi il y a un extrait du Napoléon avec Yves Simonneau à Iéna dans une émission sur la Grèce antique vue par le 19e siècle.
Ben justement, c'est pareil, tout à fait de bienvenue, puisque nous sommes donc à Iéna en 1806, et cette défaite de la Prusse face à Napoléon va provoquer ce que vous appeliez cette crise française de la pensée allemande. Et les Allemands, Allemands, c'est une manière de parler.
Prussiens d'abord.
Les Prussiens, enfin bon. Les Allemands vont se dire que face à Napoléon, il faut qu'il y ait ce qu'on appellera, alors après 70 du côté français, une réforme intellectuelle et morale. Bon. Et pour mener à bien cette réforme, ils vont trouver justement la Grèce comme interlocuteur privilégié, comme vis-à-vis privilégié, et faire, alors c'est par exemple ce que fait Humboldt, le grand Humboldt, une interprétation de l'histoire grecque, de la défaite, au fond, de la cité grecque face à Alexandre. Ils vont faire une interprétation de cette histoire grecque à la lumière de ce qui vient de se passer pour eux. Et si je schématise tout à fait les choses, ils vont se dire, la Grèce, c'est là que nous devons aller puiser nos références, nos modèles, notre inspiration. Alors Humboldt, il n'invente pas ça comme ça tout seul, ne tire pas ça de son chapeau un beau matin. Il y a déjà présent Winckelmann. Winckelmann, qui est ce personnage tout à fait considérable, qui a proposé, lui, dès le milieu du XVIIIe, justement, un chemin d'accès à la Grèce pour éviter de passer par un long détour qui est celui de la France, des Français qui sont des Romains qui sont eux-mêmes des imitateurs des Grecs, et que par conséquent, les Allemands feraient bien mieux d'aller puiser directement aux sources grecques pour devenir, si possible, comme le disait Winckelmann, inimitable.
C'est l'hellénisme allemand, la création de cette science philologique allemande si forte, si bien que longtemps, pour les hellénistes comme vous, il a fallu parler allemand pour savoir la Grèce.
Oui, mais il y a eu aussi cette idée que pour comprendre la Grèce, il fallait connaître le grec, mais que c'était encore mieux de connaître l'allemand, ou que les Grecs parlaient allemand.
Bon. Alors, on pourrait parler de l'impasse à laquelle a fini par aboutir cette école, puisque le nazisme a utilisé l'Antiquité pour abolir l'histoire et pour interpréter le passé à son usage. Je vous propose une pause. Winckelmann, il n'a jamais réussi à aller en Grèce, hein.
Non, et c'est pour ça
qu'il s'est toujours arrêté à Rome.
Oui, c'est pour ça qu'il est tout à fait important dans mon livre, parce qu'il représente cet homme donc, qui est venu de Dresde, qui est allé à Rome. Mais pour aller à Rome, il a fallu qu'il se convertisse au catholicisme à ce moment-là. Sinon, il n'aurait pas pu résider à Rome. Et de Rome, il n'a cessé de dire qu'il voulait aller en Grèce pour étudier les originaux. Il était finalement arrivé à la conclusion que l'absence de cette Grèce était un élément plus fort pour comprendre ce qu'avait été la beauté grecque.
Mais maintenant, nous en arrivons au temps contemporain, on va si facilement en Grèce.
Quelle a été votre première impression de la Grèce? Vous avez une formation qui est essentiellement une formation
d'architecte
à l'école des Beaux-Arts.
Ce qui nous a étonné le plus, c'est que nous avions été éduqués au lycée, par exemple, dans les études gréco-latines, dans l'ancienne Grèce, et je me doutais, je me demandais ce que pouvait être actuellement la Grèce. Et je vous avoue que nous avons été très étonnés. Bien sûr, nous sommes allés voir l'Acropole, Delphes, Corinthe, tout ceci est très beau. Alors, quand on veut se lancer à l'extérieur, c'est vraiment très difficile.
Mais d'autre part, il y a des services de bateaux dans les villes.
Il y a des services de bateaux, oui. Mais justement, nous sommes allés à Ios, le bateau y passe tous les quatre jours, mais personne n'y descend parce que ce n'est pas marqué sur le guide.
Alors,
on va voir Mykonos, qui est une plage à la mode, c'est là où les Athéniens passent leurs vacances. On va voir Santorin parce que le décor est vraiment très beau. Et on repasse devant Ios sans s'y arrêter parce qu'on ne connaît pas Ios et que ce n'est pas surtout marqué sur le guide. On va que là où c'est marqué sur le guide.
En attendant, donnons une autre image de la musique grecque, l'image qu'entend alors le touriste quand il s'en va dans des endroits assez peuplés, disons dans les petits bastringues des banlieues grecques, qui
ou
sont
alors
charmants eux aussi.
Quand il visite encore l'Acropole le dimanche.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Partir pour la Grèce, c'est le titre du livre de François Hartog chez Flammarion. Nous parlons de la Grèce antique et de la manière dont s'en saisissent les modernes. Vous êtes absolument consterné, François Hartog, par l'écoute de ce reportage des années 1950. Mais si on en avait passé un des années 2010, on aurait vu des touristes descendre en car climatisé, clic, clac, Delphes, et on remonte. Et vous dites ça, c'est alors vraiment le degré presque zéro. Rapport avec la Grèce.
Alors, je ne peux pas savoir ce que les gens, chacun de ces personnes qui ont parfaitement le droit d'aller en Grèce, etc., finalement en retient. Mais on voit bien qu'on est arrivé à une Grèce conçue comme un produit de consommation culturelle. Comme tous les grands sites archéologiques du monde. Et du coup, il n'y a pas justement, c'est pas Winckelmann, c'est pas l'absence, c'est pas la distance, c'est pas la réflexion sur quel grec pour quel moderne. C'est on y va, on photographie, on repart et on va le plus vite possible vers la plage.
Alors, les curiosités qu'il faut faire susciter aujourd'hui, vous les voyez dans les études grecques dans deux sens. L'interprétation politique, de nouveau, une interprétation anthropologique. Alors commençons par l'interprétation politique. Mais les auditeurs vont se demander que diable vient faire là un écho de la révolution ukrainienne à Kiev, place Maïdan. Nous sommes en février 2014. Le président de la Rada prend la parole. Je rassurais les Ukrainiens en leur disant que nous allons restaurer un gouvernement. Je quitterai alors mes fonctions après qu'il aura été nommé. Gloire à l'Ukraine.
Багато хто нервує заздрить посадам, які сьогодні очолюю я. Я хочу сказати їм, як тільки протягом місяця ми зможемо нормалізувати ситуацію, відновити владу, я піду у відставку, як людина, яка виконала свій обов'язок. Слава Україні!
Et ceci dit, il va présenter au peuple, j'allais dire au démos, les noms des ministres postulant l'un après l'autre.
Дмитро Булатов. Ігор Жданов. 20-го треба знімати. Зорян Шкіряк. Ліза Щепетильникова. Віталій Портніков. Сергій Фоменко.
Le peuple, le démos, peut créer un discours, un logos, qui ne s'appuie pas sur une autorité simplement traditionnelle, pas sur le président précédent, et qui va s'exposer, au contraire, au contrôle de tous. Et là, nous sommes un peu en Grèce.
Oui. Alors là, on a fait peut-être aussi un exemple de démocratie à l'applaudimètre. Bon, ce qui est encore... nous n'en rentrons pas dans ces complications. En effet, c'est bien ça, ce grand modèle de la cité... tel qu'il a été repris et choisi, encore une fois, puisque c'est vraiment un choix, c'est toujours ce problème du choix de l'héritage, par des gens aussi, par des personnes aussi différentes dans l'après-guerre, que Hannah Arendt d'un côté, Castoriadis du sien, et Vernon du sien, et tout ça à peu près dans les mêmes années. Et ce qui les a frappés, ce qu'ils ont retenu, ce sur quoi ils ont mis l'accent, c'est bien cet aspect de la cité comme un espace commun, un espace partagé, ou un cercle d'égo, où la parole est publique, où on a des comptes à rendre, et où, en principe, s'applique la loi de la majorité. Et alors, dans le langage de Castoriadis, ça donne cet ensemble de citoyens qui décident de se donner à eux-mêmes leur propre loi en rupture avec tout ce qui était la loi venue d'ailleurs, que cette loi vienne d'un dieu ou d'un souverain.
Tous les noms que vous citez, ce sont des gens qui ont eu affaire avec ce qu'on a appelé à l'époque le totalitarisme. Hitler, ça ne fait pas système. Staline, ça ne fait pas système. Le bien, ça peut faire système. Et le bien politique, on peut aller le chercher en partie du côté de l'héritage grec.
Oui, oui. Et c'est bien ça. Donc le retour au grec, dont on a parlé un moment d'un retour au grec, il ne s'agissait évidemment pas d'un retour au grec au sens où les révolutionnaires avaient été accusés d'avoir voulu vivre à Sparte et de s'être trompés d'époque. Il s'agit de réfléchir sur ce qui a rendu possible une communauté fondée sur de tels principes. Et l'expérience de la résistance pour Vernant et du communisme, enfin et du Parti communiste, mais aussi en partie contre le Parti communiste, l'expérience et politique de Castoriadis et l'expérience directe d'Hitler pour ce qui est d'Hannah Arendt, les ont convaincus qu'il y avait ce koinon, comme on dit en grec, c'est-à-dire ce commun. Ce commun-là, c'était ce sur quoi on pouvait espérer fonder quelque chose comme un rapport politique authentique.
Un texte fondamental de la Grèce est appelé à cet instant, à la rescousse, c'est la fameuse oraison funèbre de P. Périclès, qu'on va entendre lire ici par une grande helléniste que vous n'avez pas encore citée, Jacqueline de Romigny. Et vous pourriez peut-être situer le contexte de l'oraison funèbre de Périclès, qu'on connaît par Thucydide.
Oui, c'est-à-dire que c'est Thucydide qui l'a rédigé.
Bon, c'est Thucydide qui l'a rédigé.
Ah oui, oui, oui. C'est Thucydide, comme tous les discours chez Thucydide. Bon, alors qu'est-ce qu'avait dit
l'historien de l'initiative
qu'est-ce qu'avait dit, bah, heureusement, qu'est-ce qu'avait dit Thucydide, qu'est-ce qu'avait dit Périclès, on n'en savons rien. Mais peu importe, cette oraison funèbre, qui est un discours d'usage, qui était prononcé à l'issue de l'année, de la première année, qui a été prononcé à l'issue de la première année de la guerre du Péloponnèse. C'est un discours d'usage, la cité célèbre ses morts.
Nous employons la richesse de préférence pour agir avec convenance, non pour parler avec arrogance. Et quant à la pauvreté, l'avouer tout haut n'est jamais une honte. C'en est une plutôt de ne pas s'employer, en fait, à en sortir. Une même personne peut à la fois s'occuper de ses affaires et de celles de l'État. Et quand des occupations diverses retiennent des gens divers, ils peuvent pourtant juger des affaires publiques sans rien qui laisse à désirer. Seul, en effet, nous considérons l'homme qui n'y prend aucune part comme un citoyen non pas tranquille, mais inutile. Et par nous-mêmes, nous jugeons ou raisonnons comme il faut sur les questions, car la parole n'est pas à nos yeux un obstacle à l'action, c'en est un au contraire. De ne pas s'être d'abord éclairé par la parole avant d'aborder l'action à mener.
Alors, il ne faut pas exagérer, disiez-vous à propos de Maïdan, c'est aussi de la démocratie à l'applaudimètre. Le miracle athénien de la démocratie de l'époque de Périclès, ce n'est qu'un instant.
Oui, et puis il y avait aussi de l'applaudimètre là-dedans, donc il ne faut pas.
Et des exclus.
Il ne faut pas l'idéaliser, bien sûr. C'est Jacqueline de Romilly, c'est sa traduction du texte, hein, puisque elle a, comme vous le savez, beaucoup travaillé sur Thucydide et notamment produit cette traduction de Thucydide.
Il y a un deuxième axe qu'on peut évoquer très brièvement, c'est l'axe anthropologique. Jean-Pierre Vernant travaille en équipe et il dit « Moi, j'apprends beaucoup de choses sur la Grèce en entendant mes collègues au Collège de France parler des choses indiennes. » Ce qui est passionnant aussi dans la Grèce ancienne, c'est qu'elle a une grande épaisseur. C'est pas seulement l'époque du miracle athénien, ça va bien plus profond et ça peut se comparer.
Oui, là, cette formule frappante de Vernant pour, disant que pour comprendre la Grèce... Pour mieux comprendre la Grèce, c'est ce que les indianistes disent, non pas de la Grèce, mais sur l'Inde elle-même, qui l'amène à se poser des questions auxquelles il n'aurait pas pensé s'il était resté simplement confiné dans son domaine, dans son petit domaine grec. Donc c'est exactement là, de manière tout à fait, comment, par l'exemple, la pratique de la comparaison. Et l'approche anthropologique de la Grèce, elle est fondée là-dessus, uniquement, enfin, forte. Alors, on peut dire que ça commence avec Fustel de Coulanges qui introduit justement l'Inde pour comparer les Grecs et les Romains. Et ensuite, c'est la reprise de ce modèle de la cité grecque par les sociologues, par Durkheim, et puis l'intervention, l'apparition de l'ethnologie qui amène à élargir la comparaison en comparant des Grecs et, pour dire vite, les sauvages.
Je ne veux pas dire qu'on a pratiqué un EPI, l'enseignement pratique interdisciplinaire, mais votre maxime, c'est la Grèce, c'est bien plus qu'une discipline.
Oui, je pense que la Grèce, c'est bien plus qu'une discipline, mais il faut que nous en ayons, que nous sachions ce que nous disons quand nous parlons de la Grèce. Parce que nous pouvons dire « ça n'est qu'une discipline ». Ça n'est plus qu'une discipline, et alors à ce moment-là, nous formons des spécialistes, ou nous reconnaissons que la Grèce a été beaucoup plus qu'une discipline, et c'est la question de l'héritage. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, aujourd'hui, dire de cet héritage? Est-ce que nous en voulons ou non?
Partir pour la Grèce, un livre chez Flammarion.